Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur les bouquets satellites CanalSat et TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net.
Tout à l'heure à 21h30, nous rediffuserons le Libre Journal de la Nuit de Paul-Marie Couteau de mercredi dernier. Et puis à 23h, Chant Grégorien. Et tout de suite, voici en direct le Libre Journal de Jean Sévillia. Très bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h.
La radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de Jean Sévillia, assisté d'Armel. Cette émission est diffusée en direct le vendredi 28 mars 2008 de 18h à 21h, en différé le samedi 29 mars 2008 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Cette émission est réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à l'adresse suivante courtoisie@radiocourtoisie.net.
Chers auditeurs, bonjour ou bonsoir. Pour ceux qui nous écouteront en rediffusion, nous allons, au cours de ces 3 heures d'émission, passer par un fil rouge qui est le plus haut des fils qui soit, qui est celui de la foi chrétienne. Nous allons aller de la philosophie à l'histoire. J'annonce tout de suite le thème qui sera celui de ma deuxième partie d'émission, donc à partir de 19h30. À partir de 19h30, nous irons dans les années 30 et nous allons, et pendant la guerre, et nous allons nous pencher à travers un livre d'idées et à travers une biographie sur la question de savoir quels sont les chrétiens qui se sont engagés contre le nazisme et en quoi leur foi les a-t-il poussés à s'engager contre le nazisme. En première partie, nous sommes dans la philosophie plutôt avec 3 invités, dont 2 philosophes, Rémi Brague, Fabrice Adjadj et Rémi Soulier, et nous allons nous interroger de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour vivre et penser comme des chrétiens. Rémi Brague est mon premier invité, je le remercie infiniment, je vous remercie beaucoup Rémi Brague, vous savez que j'ai eu l'occasion de le dire à ce micro, j'estime votre œuvre, je la mets au plus haut point dans notre paysage intellectuel et vous me faites l'immense honneur d'être à nouveau ce soir à ce micro. Vous êtes déjà venu le 9 novembre dernier, le 4 janvier dernier, ça fait 3 fois en 5 mois, je prends cela comme un grand, grand compliment et je vous en sais infiniment gré. Je rappellerai à nos auditeurs que vous êtes philosophe de formation, vous enseignez la philosophie à l'université Paris 1 Sorbonne, ainsi qu'à l'université de Munich, et vous êtes un spécialiste de la philosophie médiévale, des 3 philosophies médiévales, si l'on peut dire, la philosophie chrétienne, évidemment, mais aussi la philosophie juive et la philosophie arabe ou la philosophie musulmane. Mais tous ces éléments s'interpénètrent d'une certaine manière, puisque vous êtes un des grands spécialistes, ils sont peu nombreux, mais un des grands spécialistes européens de cette discipline exigeante. Merci de me faire à nouveau l'honneur d'être ici ce soir. Le deuxième invité il est dans le studio, Fabrice Adjadj. Fabrice Adjadj est aussi professeur agrégé, il est agrégé de philosophie. Fabrice Adjadj, vous enseignez dans l'enseignement supérieur, en faculté. Vous êtes aussi enseignant dans un séminaire, à Toulon en l'occurrence. Vous avez publié plusieurs essais, mais je y reviendrai tout à l'heure en vous présentant plus longuement quand nous viendrons à votre livre. Et puis Rémi Soulier va nous accompagner, m'accompagner pendant l'ensemble de l'émission, puisqu'il restera aussi en seconde partie. Rémi Soulier est déjà venu plusieurs fois à ce micro. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'il est aussi essayiste. Dernier livre paru, c'était un Peggy de combat, qui était un superbe livre, paru au mois de mai de l'an dernier. On avait eu l'occasion d'en parler, j'avais eu l'occasion de dire tout le mal que je pense de Rémi Soulier et de ses écrits en général. Rémi Brague publie un livre. Rémi Brague a publié de nombreux livres. Faut-il rappeler que les essais de Rémi Brague, son grand livre qu'il a fait connaître, c'est « L'Europe, la voie romaine », un livre qui était paru dans sa première version en 1992, qui a été réédité en édition de poche, accessible à tout le monde en 1999. C'est un livre tout à fait fondamental. On n'y reviendra pas ce soir parce qu'on en a souvent parlé plusieurs fois à ce micro. Vous êtes aussi l'auteur, Rémi Brague, d'une trilogie qui, pour l'instant, n'a que deux pieds, « La sagesse du monde et la foi en Dieu ».« La loi de Dieu », pardonnez-moi, c'est un lapsus, c'est tout à fait. Merci Fabrice Adjage de m'avoir repris. Qui est un triptyque qui s'annonce, qui est autour de « Qu'est-ce que Dieu ?» D'une certaine manière, c'est un programme, c'est un plan extrêmement ambitieux. Vous avez publié aussi l'an dernier, ou il y a deux ans déjà, un livre auquel vous tenez beaucoup, qui s'appelle « Au moyen du Moyen-Âge », qui est une réflexion sur le rôle, la place dans l'histoire des idées, des philosophies médiévales, en chrétienté, judaïsme et islam. Et vous publiez aujourd'hui un nouveau livre qui me donne donc le plaisir de vous recevoir ici, « Du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres ». Il y a une sorte de, un peu d'humour dans ce titre. Votre livre est un livre qui comporte sept grands chapitres, si je ne m'abuse, qui chacun défend sept idées qui sont évidemment distinctes. Vous cherchez, à travers ce livre et à travers cette approche, a donné une définition de Dieu, mais du Dieu des chrétiens, donc en le saisissant, si je puis dire, par rapport aux autres approches de Dieu, notamment et spécifiquement, évidemment, puisque ce sont des approches que vous connaissez bien, l'approche du judaïsme et celle aussi de l'islam. Tout de suite, je vais vous passer assez longuement la parole, Rémi Brague, mais Fabrice Adjage, est-ce qu'en une minute, mais vraiment une minute, c'est très peu, je sais bien que les philosophes aiment parler longuement, mais est-ce que vous pourriez dire deux mots sur l'approche de Rémi Brague, en l'occurrence, et je vais poser la même question à Rémi Soulier après. Alors, il faudrait préciser, parce que c'est quelque chose d'intéressant dans votre perception, je ne l'ai pas encore dit, mais je voulais vous présenter tout à l'heure plus tard, ça a une incidence en l'occurrence, Fabrice Adjage, vous êtes, je le dis parce que vous l'expliquez très clairement dans votre livre, vous reconnaissez d'une certaine manière dans deux traditions spirituelles, puisque vous êtes né dans une famille juive, et vous êtes converti au christianisme, au catholicisme, et donc, vous, votre bagage à la fois familial et votre connaissance philosophique, théologique aussi, vous permettent d'une certaine manière de vous situer par rapport à ces deux traditions.
Oui, alors je ne parlerai pas de deux traditions spirituelles. Il n'y a qu'une seule alliance de Dieu, et d'autant que j'ai découvert et approfondi ma judaïté après ma conversion catholique, donc vous voyez, c'est quand même, faudrait faire attention à ne pas faire des raccourcis, mais pour ce qui est du livre de Rémi Brague, je tiens à préciser, parce que j'ai lu d'autres de ses livres, et j'ai toujours pour livre de référence un livre d'anthropologie remarquable qui s'appelle « Aristote et la question du monde », que je vais presque chaque année relire, en tout cas chaque fois que j'écris, je reviens à ce livre. Hélas, il faut dire que c'est un livre de pédagogue. C'est un livre remarquable sous cet aspect-là, c'est-à-dire que Rémy Bragg, le grand professeur, daigne s'abaisser jusqu'à nous et avoir une réflexion extrêmement claire et néanmoins précise sur qui est le Dieu des chrétiens. Je ne crois pas qu'il le saisisse, je crois qu'il se laisse saisir par lui, avant toute chose, sinon il n'en parlerait pas aussi bien, mais il ne parle pas en tant que théologien, il parle comme philosophe, et donc il a une approche vraiment de, on pourrait dire, de philosophie comparée, quoi. Et à travers des chapitres où toujours on retrouve son humour et sa verve paradoxale. Voilà, mais bon, je ne vais pas dire le contenu, simplement sur la forme, voilà, c'est un livre limpide dont je recommande la lecture.
Rémy Soulier, merci Fabrice Adjage. Rémy Soulier.
J'adhère évidemment aux propos que vient de tenir Fabrice. Alors, j'ajouterais simplement que, et peut-être en mode un peu polémique, mais c'est un livre en effet très intéressant, et l'un de ses intérêts principaux, à mon sens, c'est son caractère extrêmement, je mettrai des guillemets, mais extrêmement anti-écuménique. C'est-à-dire qu'à l'heure où on s'efforce de propager, et de, au nom d'une espèce de simplification générale ou d'un humanisme très 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 abstrait, une forme d'unité plus ou moins feinte et fallacieuse des religions, Rémy Bragg, avec évidemment tout son savoir philosophique et théologique aussi, dissèque d'une manière très pédagogique, c'est vrai, mais aussi humoristique, et presque, enfin, j'oserais dire irréfutable, avec donc les outils dont il dispose, comme spécialiste donc de philosophie médiévale arabe, juive, chrétienne, dissèque ces... Alors, je n'ose même plus dire les trois monothéismes, parce que même cette formule-là est évidemment problématique. Et donc, tout ce qui pourrait être reçu comme autant d'évidence, sous la plume de Rémy Bragg, devient questionné, questionnable, et d'une manière évidemment parfois très ironique, mais toujours très profonde.
Merci Rémy Soulier. Alors, Rémy Bragg, en effet, dans votre livre, c'est le premier chapitre, vous commencez par pourfendre trois trios. Qui sont des lieux communs, des poncifs de notre temps, des expressions qu'on trouve, qu'on entend à la télévision et qu'on lit dans tous les journaux. L'expression trois monothéismes pour désigner le christianisme, le judaïsme et l'islam, cette expression-là vous paraît fausse. L'expression trois religions d'Abraham vous paraît fausse. De même, l'expression trois religions du livre. Et même, vous vous interrogez, s'agit-il de trois religions ? Rémy Bragg.
Tout d'abord, je suis très heureux que nous ne soyons pas à la télévision, parce que les spectateurs verraient que je suis rouge de honte et de confusion, ayant reçu, enfin m'étant laissé déverser un torrent d'éloges aussi peu vraisemblables. Et bon, en fait, c'est moi qui suis tout à fait flatté d'être invité ici et qu'on me donne la possibilité de présenter ce livre que j'ai voulu, effectivement, ça a été très bien dit tout à l'heure, écrire de façon d'abord lisible et puis, si je puis dire, allègre. Enfin, je n'ai pas du tout voulu faire sur un sujet grave un livre compassé, d'où le sous-titre qui est évidemment un petit pied de nez du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres. Cela veut dire n'attendez pas un traité ennuyeux de théologie comparée ou je ne sais quoi, ou même de philosophie sur Dieu comparée, attendez-vous plutôt à une sorte de portrait du Dieu chrétien, enfin du Dieu des chrétiens. Je dis quelque part que cette expression n'a pas de sens, le Dieu chrétien, puisque Dieu n'est pas chrétien, mais il est l'objet de la foi des chrétiens et d'autres. J'ai donc voulu décrire l'image que les chrétiens se font de Dieu, sans m'interdire de temps en temps un petit coup d'œil en coin vers d'autres conceptions de Dieu que je ne traite pas pour elles-mêmes, mais uniquement dans la mesure où elles permettent de faire ressortir la singularité et pourquoi ne pas le dire, la bizarrerie, le caractère inattendu, surprenant de l'image chrétienne de Dieu. Donc, je me suis évidemment appuyé sur les recherches que je fais dans plusieurs domaines. Je parle de temps en temps de l'islam, moins souvent du judaïsme, de temps en temps également d'autres religions, par exemple le premier monothéisme ou la première approche du monothéisme que connaisse l'histoire, c'est en Égypte ancienne, donc il a bien fallu que je parle malheureusement de seconde main de cette tentative-là. Et puis, bon, comme je suis quand même philosophe à la base, j'ai regardé un petit peu de temps en temps ce que les philosophes, pas nécessairement chrétiens, ou qui se faisaient chacun une représentation particulière du christianisme, pouvaient dire de Dieu. D'où ce titre, je le répète, légèrement insolent, légèrement incongru, mais auquel je tiens.
Vous avez raison d'y tenir parce qu'il donne un peu de légèreté à un livre, en effet, qui est extrêmement lisible. Vous avez cette faculté, Rémy Bragg, d'aborder des problèmes qui sont des problèmes socialistes, mais il n'y a pas besoin d'être licencié ni en philosophie ni en théologie pour lire ce livre. Je puis en témoigner.
Alors, j'ai un truc. Je veux dire que j'ai une femme. Je lui donne à lire tous mes livres et comme elle n'est pas philosophe de métier, mais pas particulièrement bête, elle représente le type idéal de lecteur auquel je m'adresse, donc le lecteur, disons, cultivé et astucieux, mais pas philosophe pour un sou. Et bon, chaque fois qu'elle ne comprend pas quelque chose, je réécris le passage en partant du principe que le client, enfin la cliente en l'occurrence, est roi ou reine, si vous préférez. Alors ça me permet effectivement de faire ce qui est le devoir de tout professeur, à savoir se faire comprendre des gens à qui il parle.
Je tiens à préciser que effectivement la femme du philosophe est un lecteur idéal, parce qu'elle connaît le philosophe dans ses limites concrètes et elle ne peut pas se laisser duper. Je reprendrai même à mon compte pour ma propre femme ce que vient de dire Rémy.
Voilà. Bon, alors nous remercions ici solennellement et publiquement Madame Bragg et Madame Hadjadj pour leur contribution à vos œuvres, messieurs, par leur filtre deviennent accessibles plus facilement aux profanes. Alors, Rémy Bragg, on va rester un peu un moment sur cette histoire parce que c'est quand même important. C'est Dieu commun, trois monothéismes, trois religions d'Abraham, trois religions du livre. Pourquoi, comment est née cette ambiguïté
Chez moi, le chapitre est né d'un agacement. J'en avais vraiment ras-le-bol de voir que le travail de génération d'historiens des religions et de philosophes se trouvait balayé comme cela et renvoyé au néant par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui mettent tout dans le même panier, enfin dans les trois mêmes paniers, avec sans doute les meilleures intentions du monde, mais sans arriver à autre chose qu'à interdire un véritable dialogue. Parce que si tout cela, c'est du pareil au même, ma petite dame, à quoi bon essayer de parler l'un avec l'autre ? Nous sommes à l'unisson dès le début, pourquoi essayer une symphonie ? Pourquoi essayer d'harmoniser les voix ? Alors j'ai essayé, avec un peu un esprit afro-jojo, je le confesse, de montrer que ces trois expressions rebattues, les trois monothéismes, les trois religions d'Abraham, les trois religions du livre, recouvrent en fait d'immenses confusions, puisque cela n'est pas de la même façon que le fait que Dieu est un est compris dans les trois religions, ce n'est pas de la même façon qu'elle se rapporte à Abraham, et cela n'est pas non plus de la même façon qu'elles se rapportent à leur livre saint, chacune ayant le sien ou les siens. Alors je vais essayer de rappeler finalement quelques grosses évidences montrent qu'il vaudrait peut-être mieux, si l'on veut penser sérieusement ce dont il s'agit, s'abstenir de reprendre l'éternel refrain qui n'est d'ailleurs qu'un cas particulier d'une sorte de bouillie dans laquelle on met, comme on dit maintenant, les religions. Le fait qu'il y en ait trois, bon, il pourrait y en avoir quatre, cinq ou N, ne change pas grand-chose à l'affaire. Hein. Quand on parle des religions, voire de la religion, comme si il s'agissait d'un phénomène qui aurait le même sens et le même aspect partout, je sors non pas mon revolver, Dieu merci, je suis un homme assez pacifique, mais je sors mon stylo rouge, bien entendu, le professeur ne perd pas si facilement ses réflexes, et j'écris en marge, mais enfin bon sang, spécifiez, soyez précis, distinguez, ne mettez pas tout cela dans le même panier. Voilà, c'est à ça qu'est due cette réaction. Quant à l'origine même de l'expression, ou de ces expressions, j'avoue que j'ai reculé un petit peu devant la tâche qui consisterait à dépouiller une littérature qui n'est pas toujours du plus haut intérêt. Il aurait fallu relire les archives des journaux depuis quelques dizaines d'années, réécouter toutes les éditions de radio, revoir toutes les émissions de radio et de télévision pendant la même période. Bon, j'avoue que là, le courage m'a manqué. Je me suis simplement amusé à faire remarquer que finalement, la première apparition de cette expression, les trois religions, n'était pas du tout dans un contexte pacifique et gentillet, comme c'est le cas maintenant, mais tout au contraire, dans un contexte polémique. Et je me demande si la question des trois religions qui seraient toutes vraies, qui toutes se vaudraient, ne viendrait pas de son inverse exact, à savoir le refus commun des trois religions dans ce fameux livre des trois imposteurs, livre qui n'a jamais existé, mais qu'on avait tellement envie de lire qu'après avoir passé deux ou trois siècles à le chercher, on s'est mis à l'écrire. Ces trois imposteurs, donc le chamelier, le berger, pardon, le chamelier et le médecin, on reconnaît bien entendu Moïse le berger, Mahomet le chamelier et Jésus le médecin à cause des guérisons miraculeuses, tous ces gens-là auraient trompé l'humanité. C'est peut-être à partir de cette idée que l'on a à un certain moment, que je n'ai pas réussi à préciser, tout simplement retourner version polémique de la chose pour en faire la fraternité d'Abraham ou la communauté des gens du livre ou la sainte alliance des monothéistes. C'est à ce point de mes non-recherches que je suis arrivé. J'espère qu'il y aura quelqu'un un jour qui aura la vertu de s'enfouir dans les archives de publications fort peu honorables pour chercher la première apparition de ces expressions.
Vous rappelez aussi notamment, sur ce plan-là, que l'expression « religion du livre » pour désigner le christianisme est singulièrement inappropriée parce que le christianisme n'est pas une religion du livre, c'est une religion du Dieu incarné.
Ce sont les deux religions bibliques qui ne sont pas des religions du livre, puisque l'incarnation, c'est l'interprétation et, bon, quand on est chrétien, c'est mon cas, on pense l'approfondissement de l'idée d'alliance. Cette idée d'un Dieu qui a, si je puis me permettre un mauvais jeu de mots, qui a une aventure avec l'humanité, puisque c'est au fond une histoire d'amour. Si l'on conçoit que le Dieu est avant tout le Dieu d'une alliance, on n'est pas obligé de penser que cette alliance va jusqu'à l'alliance des deux natures dans la personne du Christ. Ça, les théologiens chrétiens qui ont dit ça à Chalcédoine, au concile de Chalcédoine, n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais si l'on pense que le Dieu est avant tout le Dieu de l'alliance, l'essentiel, ça n'est jamais le livre. C'est, pour l'ancien Israël, l'histoire de Dieu avec son peuple, et pour le christianisme, l'histoire de Dieu fait homme, avec son peuple lui aussi, élargi par l'addition de l'Église chrétienne. Le livre note ce qui est arrivé, le livre raconte l'histoire, réfléchit sur elle, mais il n'est pas l'objet révélé. la religion dans laquelle l'objet révélé soit un livre, c'est l'islam. Et il n'y en a pas deux. Dans le christianisme et dans le judaïsme, l'objet révélé n'est pas le livre. C'est une histoire dans le judaïsme, c'est une personne dans le christianisme.
Quand vous dites que le Dieu des chrétiens est un Dieu un, alors est-ce que vu l'extérieur, et pour faire simple, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction? Parce que nous apprenons tous au catéchisme, ceux qui sont allés au catéchisme, que Dieu est un en trois personnes. Alors je pense que vous n'allez pas développer ce débat théologique qui dure depuis quelques siècles, mais alors comment expliquer cette dialectique de l'un et de la Trinité?
Ben justement, en cessant de penser que la Trinité serait une manière de donner un petit peu de mou à l'intérieur de l'unité divine. Je déteste, par exemple, j'ai un petit paragraphe courroucé là-dessus, que l'on parle d'un monothéisme strict. Parce que bon, il n'y a pas plus ou moins un seul Dieu. Ou bien il y en a un seul, ou bien il n'y en a pas un seul. Il n'y a pas des monothéismes modérés, des monothéismes mous. Et le christianisme est un monothéisme aussi strict, c'est-à-dire aussi monothéiste, enfin un monothéisme aussi fidèle au concept du monothéisme que les autres. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont il conçoit la façon dont. C'est la manière dont il conçoit la façon, excusez cette répétition, dont Dieu est un. Lorsque l'on dit Dieu est un en trois personnes, ça ne veut pas dire Dieu est un, mais il y a aussi. À l'intérieur, si je puis dire, de cette unité, trois, alors trois quoi, bon, on disputera à ce sujet. Non, il faut comprendre que Dieu est un parce qu'il est trois personnes. Son unité, c'est l'unité de l'amour. C'est l'accord, si l'on peut dire, de ce que, en balbutiant nos mots, comme le font tous les théologiens, on appelle trois personnes ou trois hypostases, si on veut vraiment être pédant, mais aussi plus précis. C'est l'accord de c'est l'union, si je puis dire, amoureuse de Dieu avec lui-même qui constitue son unité. Et nous sommes là bien au-delà de la constatation assez simple qui consisterait à compter le nombre de Dieu. Et à se demander, bon, il y en a combien exactement? Et la réponse de certaines religions serait de dire, ben, il n'y en a qu'un seul. Alors, est-ce que c'est mieux que deux? Est-ce que c'est moins bien? Bon, on peut en discuter indéfiniment, tant que l'on n'a pas compris que la Trinité, c'était la façon dont le Dieu chrétien est un.
Les noms, je voulais
préciser. Fabrice Adjadj, bien sûr.
Les noms des personnes divines, ce sont des noms de relations. C'est-à-dire que dès que je dis Père, je ne le désigne qu'en renvoyant au Fils et à l'esprit, qui est le baiser du Père et du Fils, ou le don du Père au Fils. Et donc on ne peut pas dire le nom d'une personne divine sans renvoyer aux deux autres. Ce qui montre très bien ces noms qu'on peut séparer, qu'on peut dire séparément, en réalité renvoie toujours aux deux autres et manifeste donc une unité d'amour.
Rémi Soulier, vous vouliez intervenir?
Oui, ou non, simplement, vous parlez du catéchisme, et je crois en un seul Dieu, le commencement du credo, le Père Tout-Puissant, et en effet, on entre dans le credo, qui résume absolument tout, dans ce Dieu de relation, qui n'en est pas moins un, parce qu'il est relation.
Mais il est une unité surabondante, voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est pour ça que le mot strict, peut-être que ne conviendrait pas, il n'est pas moins un, il est encore plus un. Que les autres, en raison même de cette surabondance d'amour et de cette unité d'union.
Alors ce Dieu est Père, justement, qu'est-ce qui caractérise dans le Dieu des chrétiens, si je puis dire, la paternité de Dieu? Comment se manifeste-t-elle?
Écoutez, ça c'est une... Je suis content que vous ayez posé cette question, parce que c'est une singularité du Dieu biblique. Le fait que Israël soit le fils aîné de Dieu, comme Moïse est chargé de le dire au Pharaon, bon ben ça se trouve déjà, bien entendu, dans l'Ancien Testament, dans l'Exode en l'occurrence. Le rapport au Dieu Père tel qu'il apparaît dans la vie intime de Jésus, qui se permet, comme on sait, d'appeler Dieu Papa, hein, enfin de ce petit mot... Les grammairiens diraient de cette hypocoristique, n'est-ce pas, ce petit mot doux que l'on emploie pour parler à quelqu'un que l'on aime bien et avec lequel on est dans une intimité particulière. C'est le développement, c'est l'incandescence, pourrait-on dire, d'un rapport à Dieu qui est déjà le fait de l'ancien Israël et qui, curieusement, manque dans l'islam. L'islam nomme Dieu de différentes façons. Il lui accorde non seulement des attributs comme la puissance, la science, etc., mais la piété populaire islamique distingue 99 noms de Dieu, bon, le miséricordieux, le suffisant, le nourricier, enfin bon, il y a une quantité, il y en a 99 justement, le centième est inconnu, il ne sera révélé qu'au dernier jour, mais il y en a un parmi ceux-là, si je puis dire, qui brille par son absence, et c'est justement celui de Père. Alors, on ne peut pas définir en un mot la paternité, même si on a soi-même le bonheur d'en exercer l'analogue terrestre en ayant des enfants. Mais je crois qu'avec cette idée de paternité, pardon, nous sommes au cœur de ce que j'ai appelé tout à l'heure, je me permets de me répéter, mais c'est un mot extrêmement biblique, l'idée d'alliance. C'est que Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui, je ne sais pas, lancerait la création avec cette fameuse chiquenaude que Pascal reprochait à Descartes. Il disait que Descartes n'aurait pas dû s'en contenter. Dieu n'est pas simplement une sorte de règle morale, hein, d'autorité qui dirait « bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Mais il est quelqu'un qui a avec l'humanité, eh bien, dans le rôle pardon, d'un père tout à fait terrestre avec son enfant. C'est-à-dire non pas seulement lui dire ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'un père doit faire, non pas seulement le nourrir, enfin, d'abord l'engendrer, ce qui est la moindre des choses, non pas seulement le nourrir, mais également l'aider. Lui apprendre à marcher, communiquer le maximum de ce qu'il peut lui communiquer. Et il est remarquable que la Bible ait conçu Dieu à travers cette image. Donc ni le Créateur, responsable des lois physiques, ni le gendarme céleste, responsable des lois morales, mais bien au-delà de cela, car c'est parce que Dieu est raison qu'il y a des lois de la nature, c'est parce qu'il est bon, parce qu'il est la bonté même, au sens propre du terme, qu'il y a des lois morales, mais aussi, il ne faut pas oublier cette manière de marcher avec l'homme, comme le père qui apprend à marcher à un enfant, c'est pas, qui s'adapte à son rythme, qui le tient, qui parfois... le lâche, ou lui donne l'impression de le lâcher, parce que il faut que le bébé, enfin l'enfant, se risque. Il y a tout cela dans la conception chrétienne de Dieu. Je dis conception, je devrais dire image, et je devrais dire aussi histoire. C'est une manière aussi de raconter ce qu'est Dieu, pas seulement de le décrire, comme si on pouvait décrire, comme on décrit un objet, quel qu'il soit.
On va faire une toute petite pause musicale et on reprendra dans quelques courtes deux minutes notre discussion. nous reprenons le fil de notre discussion. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que je reçois, ils écoutent le Libre Journal de Jean Sévillia, et je reçois Rémy Brague, qui est professeur de philosophie et qui vient de publier Du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres. Cet essai vient de paraître, est en librairie depuis hier, vient de paraître aux éditions Flammarion. C'est un livre extrêmement clair qui, à travers 7 grands chapitres, distingue ce qui définit Dieu pour le christianisme par rapport aux autres religions. Et dans le studio avec nous, Fabrice Adjadj, qui est professeur de philosophie, qui a publié un livre dont nous allons parler tout à l'heure, La profondeur des sexes, et Rémy Soulier, qui est essayiste. Rémy Brague, je reprends votre livre. Vous avez une affirmation qui pourrait faire peur. Vous dites que Dieu a tout dit, et donc que ce Dieu est réduit au silence. Mais alors, les chrétiens sont-ils réduits à n'écouter que le silence de Dieu? C'est un peu effrayant.
Le chapitre dont vous parlez est un commentaire, plutôt se déploie au fil d'un commentaire d'un texte de Saint Jean de la Croix qui dit très exactement ce que vous venez de dire, à savoir que Dieu n'a plus rien à nous dire pour une raison très simple, c'est qu'il a déjà donné, comme on dit dans le langage du café-théâtre. Il avait encore quelque chose à nous dire, eh bien, contrairement à ce que l'on peut penser, cela voudrait dire qu'il nous aurait refusé quelque chose. Cela serait un Dieu avare. Ça serait tout à fait le contraire du Dieu généreux que l'on s'imagine et qui continuerait toujours à nous donner quelque chose, puisque s'il devait continuer de donner quelque chose, ça voudrait dire qu'il aurait encore quelque chose dans ses poches. Or, il faut se le représenter, je ne sais pas, retournant ses poches, hein, en montrant la vacuité. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? Eh bien, il nous a donné, en Jésus-Christ, enfin là, bien entendu, c'est le chrétien qui parle, il nous a donné en Jésus-Christ l'infini, que nous n'aurons jamais fini d'explorer, dans lequel nous n'aurons jamais fini de découvrir de nouvelles richesses. Nous n'avons pas besoin de demander autre chose que ce qui nous a déjà été donné. Nous avons besoin d'approfondir, de découvrir toujours à nouveau. Imaginez que vous ayez reçu comme cadeau, je ne sais pas, pour votre anniversaire, mettons, un paquet infini. C'est évidemment un petit peu difficile à se représenter, mais enfin bon, vous n'en aurez par définition jamais fini de défaire, non seulement de défaire les rubans, de retirer les papiers, mais de découvrir toujours de nouvelles choses. Je ne sais pas, imaginons que vous avez offert un service à thé infini. Bon, ben, vous découvrirez toujours de nouvelles tasses, de nouveaux sucriers, de nouvelles petites cuillères, toujours plus merveilleuses les unes que les autres.
Pour un thé qui n'en finit pas, comme dans la liste au pays des merveilles.
Exactement, exactement. Enfin là, ce n'est pas un chapelier fou qui nous l'offre, mais c'est la raison même, le verbe lui-même qui nous est donné. Et qui ne nous fait jamais porter le chapeau. J'ai un chapitre là-dessus aussi, sous un autre titre. Alors je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'il ne faut pas s'imaginer, il ne faut pas rechercher, je ne sais pas, de nouvelles révélations qui ne pourraient être que des expériences un petit peu suspectes, peut-être. Hein, ne recevant pas grand-chose, nous pourrions avoir la tentation de chercher, de provoquer des expériences. Bon, alors il y a des produits pour ça, hein, ils sont en vente dans toutes les mauvaises pharmacies. Je crois que c'est ça qu'implique cette sobriété à laquelle nous invite Saint Jean de la Croix. Ça n'est pas du tout une renonciation, c'est au contraire une invitation à chercher au bon endroit le cadeau infini qui nous a été fait.
Fabrice Adjadj.
Je pense à cette parole de Jean de la Croix, effectivement, qui est dans la montée du Carmel, où il faut rappeler quand même que Jean de la Croix est un mystique, et que généralement on pourrait concevoir le mystique comme celui qui cherche une expérience nouvelle, une révélation inédite. Or, à l'orée de son cheminement mystique, Jean de la Croix dit « il n'y a pas à chercher du nouveau, puisque dans son Fils, c'est-à-dire Dieu nous a donné toute sa parole, son Verbe même. Donc il ne faut pas chercher de nouvelles révélations privées, de nouvelles... Voilà, tout est là et tout est donné à l'intérieur de l'Église. Maintenant, que Dieu ait tout dit, cela ne veut pas dire, comme l'a dit Rémi Braque, que nous ayons tout entendu et que nous n'ayons plus à écouter encore. Au contraire, ça veut dire que nous sommes nous-mêmes engagés dans une écoute infinie.
Rémi Soulier. Et également cette notion de silence, effectivement, est décisive parce qu'elle n'est pas, elle est nouvelle en quelque sorte, telle que vous l'interprétez. On entend souvent parler du silence de Dieu dans les grands drames de l'humanité. Pourquoi Dieu s'est-il tué à Auschwitz, par exemple. Bon, la notion de silence telle que vous l'entendez, c'est le cas de le dire, ce silence-là est bien, bien différente. Le silence de Dieu permet aussi peut-être, reste à savoir dans quelle mesure, à l'homme de parler lui-même, hein, de lui répondre. C'est dans ce jeu d'alliance. Et c'est toute la question aussi du monde contemporain. Est-ce que l'on est à l'écoute de ce silence pour y répondre, ou bien est-ce que ce silence-là est interprété comme la mort de Dieu? Si Dieu est silencieux, c'est évident qu'il est mort. Ça, c'est une première interprétation possible. Et puis, il y a aussi le fait que Dieu, évidemment, s'est donné intégralement sur la croix. Il s'est donné de manière... Mais il continue à se donner de manière aussi radicale dans le sacrifice de la messe, et il continue de se donner de manière radicale aussi, parce qu'en lui, comme dit saint Paul, par lui, nous avons l'être, la vie, le mouvement. Donc ce don-là, il s'est donné au passé, il se donne infiniment au présent, dans notre présent, c'est par lui que nous avons l'être. Et il se donne sans cesse dans le sacrifice non sanglant de la messe. Donc tout cela forme un ensemble que l'on peut s'efforcer de, non pas de saisir ou de circonscrire, mais en tout cas d'approcher, d'appréhender. Et la manière dont vous évoquez le silence de Dieu, et dont vous le mettez en relation avec cet écho possible de la parole humaine est évidemment tout à fait fondamentale.
À vrai dire...
Rémi Braque.
Oui, à vrai dire, c'est en ayant présent à l'esprit toutes les tentations ou toutes les expériences de la modernité que j'ai interrogé ce texte, qui se trouve donc chez un auteur de la fin du XVIe siècle, bien avant... que l'on ait parlé du silence de Dieu, par exemple dans la fameuse strophe d'Alfred de Vigny que je cite, bien avant la fameuse déclaration de Nietzsche sur la mort de Dieu, bien avant toutes les doctrines du désenchantement du monde, de la sécularisation, enfin je mets un petit peu tout ça dans le même panier, il faudrait être beaucoup plus prudent ici, mais ce que je veux dire c'est que le fait de ce silence de Dieu a été pensé deux siècles avant les références auxquelles nous pensons habituellement lorsque nous traitons de ce problème. Et mon intention est effectivement de montrer que ce silence, tel que Dieu, si je puis dire, le conçoit, c'est une manière de dire à vous la parole, comme dans la communication, non pas à la radio, au sens où nous parlons en ce moment à la radio, mais je ne sais pas, comme les aviateurs qui se parlent, n'est-ce pas, quand le message est terminé, disent « à vous ». Bon, eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Je me tais pour que l'autre puisse parler. Et de fait, s'ouvre avec ce don infini l'espace que Fabrice vient d'appeler celui d'une écoute infinie, d'une réponse infinie, d'une liberté infinie de répondre à cette liberté qui nous a donné tout ce qu'elle avait à donner.
Nous écoutons Rémi Braque qui publie aux éditions Flammarion un essai intitulé « Du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres ». Essai philosophique, non pas théologique, mais accessible au public et au grand public, et qui nous donne donc une approche de ce qui distingue le Dieu des chrétiens, le Dieu du christianisme. Rémi Braque rappelle avec justesse que le Dieu est chrétien, Dieu n'est pas chrétien, Dieu est Dieu par définition. Ce qu'il distingue des autres grandes religions. Dieu ne nous demande rien, dites-vous Rémi Braque. Ça, c'est la notion de la gratuité de Dieu, d'une certaine manière. La gratuité de notre lien avec lui.
Je distingue la manière dont Dieu attend quelque chose de nous et la manière dont un autre Dieu, un Dieu qui ne serait pas le Dieu des chrétiens, exigerait quelque chose de nous. Il est bien évident que Dieu attend quelque chose de nous, au sens où, lorsque nous arrosons une plante, nous nous attendons à ce qu'elle pousse. Et lorsqu'elle ne pousse pas, bon, ben, nous sommes déçus. Nous nous demandons si, je sais pas, nous avons mis assez ou trop d'eau, assez ou trop d'engrais, je ne sais quoi. Ça fait un problème. Eh bien, je me suis amusé à montrer, déjà à partir de passages de l'Ancien Testament, en particulier à propos du fameux champ de la vigne chez Isaïe, que c'est ça que fait Dieu. Dieu ne nous dit pas « fais pas ci, fais pas ça », ou au contraire « fais ci, fais ça ». Il s'attend à ce que nous déployons toutes les richesses dont notre humanité est grosse, hein, dont notre humanité est porteuse. Je reprends l'image végétale, n'est-ce pas ? Il y a une graine de bien en nous qui doit pousser. Alors il fait tout ce qu'il faut pour que cette graine pousse, mais il n'a pas à nous indiquer ce que nous devrions faire, enfin ce qui serait permis ou ce qui serait interdit. Je suis toujours blessé lorsque beaucoup de gens, encore maintenant, et même, peut-être surtout en milieu catholique, conçoivent la religion comme un ensemble de commandements et d'interdits. Il faut des limites à l'homme, il faut des choses comme ça. Ben non, nous avons peut-être beaucoup plus besoin d'avoir l'envie de vivre, et de vivre pleinement, que de nous voir imposer des limites. Alors si ce sont des limites, bah, c'est au sens où de chaque côté d'une autoroute, il y a des glissières, n'est-ce pas, pour éviter que les gens ne se vomissent dans le décor. Bon. Mais ce ne sont pas des interdictions. Alors j'ai plusieurs pages où je râle, je rouspète, je tempête, enfin, discrètement à ma manière, contre la façon dont on s'imagine que ça embêterait Dieu que nous agissions mal. Le mal serait un défi à Dieu, mais ça l'embêterait. Et donc, si Dieu était comme cela, eh bien, cela serait, me semble-t-il, un strict devoir que de prendre comme attitude un certain prométhéisme, une certaine révolte. Enfin, contre un dieu comme ça, moi, je me révolterais. Enfin, j'espère que j'aurai le courage de le faire. Bon. Or, le dieu tel que se le représentent les chrétiens n'est pas du tout ce genre de personnage. Mais au contraire, bah, le jardinier qui fait tout pour que sa plante, pour que sa vigne, Israël, chez Isaïe, on peut dire l'humanité, l'homme, si l'on préfère, il fait tout pour que cette plante qu'il a entourée de ses soins pousse le plus harmonieusement du monde, et bon, bah, il s'attend à ce qu'elle produise du fruit, ce qui est, me semble-t-il, tout à fait rationnel, tout à fait normal.
Fabrice Adjadj.
Oui, je voulais préciser deux choses. L'image des glissières est un peu trop, peut-être, coulante. Celle du jardinier est quand même plus remarquable. Et elle suppose aussi qu'on est monde et c'est violent. Maintenant, c'est toujours cette violence divine est toujours pour qu'il y ait abondance de fruits. Ce n'est pas pour nous limiter, ce n'est pas pour nous priver. Moi, il y a une chose quand même que je voudrais qu'on précise, c'est que bien sûr que Dieu ne nous demande rien, qu'il n'a pas besoin de nous, mais aussi qu'il a voulu avoir besoin de nous et que aussi dans l'incarnation, il a rendu possible, alors c'est déjà possible sous un certain rapport, mais il a rendu possible aussi que le fait que notre péché puisse le blesser profondément. Alors c'est vrai qu'il ne nous demande rien, mais ça ne veut pas dire que nos absences de réponse ne sont pas des blessures pour lui. Et donc il n'est pas comme celui qui exigerait effectivement et qui nous menacerait de châtiment, mais il est comme celui qui doit nous inspirer cette crainte amoureuse de blesser celui qui nous aime. Et c'est pour ça, il y a quand même dans le péché, ça ne diminue rien ce que vient de dire Rémy Brague. Au contraire, je crois que ça rend la faute, mais qui n'est pas conçue sous une modalité légale, moraliste, mais ça rend la faute d'autant plus grave, puisqu'elle peut blesser une personne au cœur.
Rémy Soulier.
Et on pourrait, pour poursuivre en ce sens-là, faire pour le coup un éloge de l'interdit, mais de l'interdit qui serait étymologique. Enfin, l'interdit, c'est le dit entre, ce qui est dit entre deux personnes, précisément. Et parler d'absence de réponse, c'est renoncer à l'interdit, c'est-à-dire à l'alliance et au dialogue. C'est renoncer et à l'écoute dont on parlait, et renoncer à la réponse que Dieu attend de nous aussi. Donc tout cela peut participer de ce dialogue.
Tout à fait, merci de ces précisions. Je dirais que s'il y a loi dans le christianisme, il faut comprendre le mot de obligation au sens où l'on dit « je suis votre obligé ». C'est-à-dire que c'est avant tout une reconnaissance. C'est comme ça qu'on dit merci en portugais, comme vous le savez, hein, « je suis votre obligé ». Obrigado. Bon. On commence, je crois, à comprendre quelque chose lorsque l'on réfléchit à la différence entre ces deux situations. J'ai un ami dont je sais que c'est quelqu'un de très gentil, de très bon, de très généreux. Je vais donc lui faire un seul coup, je vais le trahir, en me disant, de toute façon, il va me pardonner. Non. Ça, c'est une attitude absolument diabolique. Le fait que j'ai un ami qui m'aime, qui me fait confiance, qui est généreux, qui est bon, est une raison de plus, et pas une raison de moins, pour ne pas le trahir. Moi, c'est un peu sous ce modèle-là qu'il faut comprendre notre rapport avec Dieu. Bien entendu, si nous commettons un péché, Dieu nous pardonnera. Mais nous n'avons pas le droit d'anticiper, si je puis dire, son pardon, de dire, bon, puisque de toute façon, il va me pardonner, je peux y aller franchement. Imaginez-vous ce que ça donnerait, je ne sais pas, par exemple, dans la vie conjugale. Hein, ma femme est tellement gentille, bon, je peux me permettre une petite passade, n'est-ce pas, sans conséquence. Non, c'est précisément parce que je sais qu'elle me pardonnera que je m'interdis, là je reprends votre mot, que je m'interdis de la trahir.
Et tabler sur la miséricorde de Dieu, c'est entrer dans le péché irrémissible.
Absolument.
Puisque de fait, je ne vois plus que mon péché est un péché à cause de ça. Donc c'est ce qu'il y a de pire.
On va lire quelques questions. Armel va lire quelques questions. Peu de questions nous arrivent, mais parce que quand on est dans une émission philosophique, nous savons d'expérience que nos auditeurs écoutent avec passion. Et tout, j'en ai toujours beaucoup d'écho après, mais ça suscite peu de questions parce que les lecteurs sont souvent intimidés. Vite ces questions, Armel, et puis si vous avez des éléments de réponse, chers amis, je vous répondrai après. On prendra une pause musicale et nous passerons à Fabrice Adjage pour parler de son livre.
Alors, le message d'une auditrice, Dieu est amour comme il l'est, la Sainte Trinité est une nécessité essentielle, tout amour doit sortir de soi-même. Le message d'un auditeur, les invités nous tiennent des propos de théologiens ou de philosophes. Malheureusement, les propos tenus...
C'est un propos, une question critique, vous allez voir.
Malheureusement, les propos tenus se basent sur des sujets qu'ils ne peuvent pas connaître, puisque Dieu et la vérité, s'ils existent, sont inconnaissables de la part des humains. Les prétendues doctrines ou révélations sont des inventions humaines. Malheureusement, théologiens et philosophes sont à l'origine de conflits sanglants qui ont été très préjudiciables à l'humanité. Ce soir, je constate qu'on ne cherche pas à réduire les conflits. Le message d'un auditeur... Le très Saint-Père Benoît XVI cherche à convertir les musulmans d'une façon pacifique en condamnant la violence et l'impossibilité pour un musulman de se convertir à une autre religion. Et un dernier message, celui d'un auditeur qui a trouvé sur le site Dailymotion une vidéo remarquable où Rémy Brague corrige les propos aberrants, dit-il, tenus par Luc Ferry, au sujet de Benoît XVI et de l'islam.
Alors, Rémy Braque, je trouve qu'on a beaucoup parlé déjà de cette histoire de Dailymotion. C'est une vieille histoire qui date d'il y a plusieurs mois, mais qui revient parce qu'elle a frappé, les esprits. Sur les autres questions des auditeurs, est-ce que vous avez deux, trois éléments de commentaire?
Je dirais qu'il s'agit effectivement, comme un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, me reproche de ne pas vouloir le faire, de réduire les conflits. Je prendrais le terme « réduire » au sens où l'on réduit une fracture, n'est-ce pas ? Il faut, pour que l'on puisse réduire une fracture, qu'elle soit bien propre, hein, que l'on ait bien tout nettoyé, et que l'on fasse correspondre ce qui correspond. Les os doivent faire la queue d'aron de l'un avec l'autre. Si on rapproche des morceaux d'eau qui ne se conviennent pas, vous allez avoir des résultats épouvantables. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est bien ça, c'est bien montrer où est la fracture, hein, à tous les sens du mot, et bien montrer ce qui correspond et ce qui ne correspond pas. C'est à ce prix-là qu'on pourra se permettre de nouer, ou en tout cas d'entamer, ne soyons pas trop rapidement optimiste, un dialogue qui parle vraiment des choses et pas qui passe à côté.
Fabrice Adjard.
Dans la question de l'auditeur, la même, hein, il y a ce fond, ce fameux argument agnostique, c'est-à-dire Dieu est si transcendant, d'ailleurs ce qui suppose déjà une connaissance sur Dieu, que nous ne pouvons pas le connaître. Et donc il confond d'ailleurs transcendance et extériorité, ce qui est une erreur fondamentale, on pourrait penser en tout cas en philosophie. Et l'autre idée, c'est que tout ne serait qu'invention. Voilà. Alors, il faudrait peut-être justement examiner ce qui est de l'ordre de l'invention, ce qui ne l'est pas, parce que ça c'est une affirmation, vous voyez, qui est extrêmement dogmatique. Et puis, s'il y a un Dieu qui a créé le monde, ce que la philosophie peut approcher elle-même, elle peut aussi dire que ce Dieu peut se révéler, et qu'il est même probable qu'il se révèle. Et donc c'est cette notion même de révélation qu'il s'agit d'examiner dans un ordre parfaitement rationnel. Il est beaucoup plus raisonnable de penser un Dieu qui se révèle qu'un Dieu qui se dérobe, qui aurait des cachotteries, vous voyez, comme un époux adultère. C'est quand même étrange, voilà.
On va parler de l'adultère avec vous, Rémi. Fabrice Adjard, dans un instant. Rémi Soulier, un élément de commentaire.
Dans la même idée aussi, et pour répondre à l'un des... Enfin, répondre en tout cas, prolonger le débat indirectement avec l'un des auditeurs, l'idée selon laquelle les religions seraient génératrices de conflits, un grand athée ou un grand agnostique, enfin un grand athée du XXe siècle, qui s'appelle Freud, a bien montré que la pulsion de mort était indéracinable, et que de toute façon, religion ou pas, les manières de s'entretuer sont... la psychanalyse, au fond, contribue à nous ramener au péché originel. Je veux dire par là que, religion ou pas, le mal, le figmentum malum, nous travaille.
Merci, chers amis. Une courte pause musicale et nous reprendrons notre débat autour du livre de Fabrice Adjard. Thank you.
reprenons le fil de cette émission. Vous écoutez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, le libre journal de Jean Sévillia. Je reçois des philosophes, Rémi Brague. Nous venons parler longuement avec lui, et pour le temps qui nous reste pour la première partie de cette émission, pour une demi-heure, nous allons accompagner Fabrice Hadjadj, qui publie un livre au titre qui lui aussi contient sa petite part de provocation, « La profondeur des sexes », sous-titré « Pour une mystique de la chair ». Cet essai paraît aux éditions du Seuil. C'est un livre tout à fait remarquable, mais c'est un livre, il faut bien le dire, assez surprenant. C'est un livre qui mêle la philosophie, la théologie, qui utilise parfois le calembour, qui s'exprime parfois avec des expressions qui sont ceux un peu d'un Chartier. C'est un peu, c'est pas un livre à mettre dans les mains des enfants de Marie, et pourtant c'est le livre d'un chrétien et d'un catholique convaincu, un livre qui est donc une réflexion sur la place de la sexualité dans le plan de Dieu, et surtout la place de la sexualité dans les rapports hommes-femmes conçus dans leur rapport précisément à Dieu. Alors, avant que je ne cède la parole à Fabrice Hadjadj, Rémi Soulier, un mot sur cet essai que vous avez lu, « La profondeur des sexes ».
Je voudrais juste dire quelque chose sur l'expression « Chartier ». Bon.
Fabrice Hadjadj, c'est une plaisanterie. Vous savez, les journalistes aiment bien prendre
des expressions. Non, mais je l'accepte tout à fait, mais je voulais juste préciser que c'est vraiment de la charrette qui conduit à l'échafaud. Puisque la perspective tragique dans ce livre fut-elle approchée de façon légère et très présente, voilà.
Bah après l'échafaud, et après le JB, il y a la résurrection de la chair. Hein,
voilà.
Mais oui, bah écoutez, alors moi, évidemment, j'aime beaucoup Fabrice Hadjadj et l'homme qui est un ami et l'écrivain, le dramaturge. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, à plus d'un titre, enfin, on pourrait y rester longuement, mais enfin, il n'en est pas question. Mais je crois que, de manière générale, enfin, l'une des caractéristiques les plus belles de Fabrice Hadjadj et de ses travaux, c'est que c'est un catholique qui prend à bras le corps de manière franche, directe, qui embrasse un certain nombre de problématiques, un certain nombre de textes que les catholiques, d'ordinaire, n'ont pas l'habitude de côtoyer ou de fréquenter. C'est-à-dire qu'avec Fabrice Hadjadj, il ne faut pas... Fabrice Hadjadj n'a pas froid aux yeux, il fait en sorte que son lecteur n'ait pas froid aux yeux, et donc sa réflexion va emprunter un certain nombre de chemins, les chemins, j'allais dire, balisés de la théologie, les chemins thomistes, enfin, mais c'est ce qui fait le prix, je crois, aussi de sa prose, de son travail au-delà. D'autres chemins, beaucoup moins fréquentés d'ordinaire par les catholiques, à tort bien entendu, et qui sont des chemins, dirait-on, un peu plus sulfureux. Et je pense par exemple à la lecture que tu proposes de Georges Bataille, je pense par exemple à ce que tu dis du Marquis de Sade, réflexion l'une et l'autre extrêmement pertinente. Donc c'est une des qualités fortes de Fabrice Hadjadj de manipuler et de tenir ensemble, de s'efforcer de tenir ensemble toutes ces dispositions culturelles. Et puis il y a une autre qualité, à mon sens, très forte de ces textes, c'est son style. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on sait, j'espère que l'on saura de plus en plus, enfin, de plus en plus de personnes savent que tu es aussi dramaturge, enfin que des pièces ont été montées et jouées à Paris, en province. Et donc tu as un style aussi qui sait être poétique. Bon. Mais dans ce livre-là, tu nous permet de lire et de nous nourrir d'un certain nombre de thèses et de propos sur un mode alors qui rejoint d'une certaine façon l'allégresse de Rémi Brague, qui est aussi parfois humoristique, parfois même franchement comique. Et une des synthèses que l'on ressent le plus fortement à te lire, c'est précisément cette cohabitation du tragique et du comique qui fait aussi le prix et le sel, et au-delà même, parce que ça peut être très grave, et tu le dis, mais de notre existence. Donc tout cela se retrouve dans tes livres, et dans celui-ci en particulier. Donc à mes yeux, constitue évidemment un jalon essentiel dans ta manière de réfléchir et d'aborder des thèmes qui nous sont très chers à tous ici.
Merci Rémi Soulier de cette longue présentation. Et vous avez rappelé, Rémi, vous avez eu tout à fait raison, parce que dans la presse, j'allais oublier de préciser, j'avais oublié de préciser ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'il fallait préciser, c'est important, que ce livre de Fabrice Hadjadj, La profondeur des sexes, n'est vraiment loin d'être son premier livre. Il s'est fait remarquer surtout par un livre qui a marqué les esprits pour beaucoup, qui est Réussir sa mort, un essai paru il y a 3 ans, où vous montriez, Fabrice Hadjadj, que le refus contemporain de la finitude de l'homme, c'est-à-dire ce refus de la mort, est quelque chose qui est autodestructeur et ça fait partie de la condition humaine de savoir accepter que l'on est un être qui va finir, terrestrement en tout cas, et qu'il faut préparer sa mort. Et vous êtes évidemment dramaturge, et on se rappelle de la mise en scène notamment du massacre des innocents, c'était il y a 2 ans, c'est cela
il y a un an.
Un an. Et c'est aussi une pièce que beaucoup ont vue et qui nous a marqué. Rémi Braque, en un mot, parce que le temps passe, je crois que vous connaissez bien Fabrice Hadjadj, que vous le considérez comme un de vos disciples, on peut dire cela ?
Oh là là, disons que j'attends avec impatience de pouvoir lire la thèse qu'il m'a fait l'honneur de faire semblant de diriger. Et je veux dire, s'il y a un rapport de maître à disciple, il est réciproque.
C'est un superbe compliment qu'on vous fait, la Fabrice Hadjadj.
Oui, en fait, c'est un reproche dissimulé, parce que effectivement, je suis même pas en retard, c'est que je n'ai même pas commencé alors que je suis déjà inscrit. Mais c'est vrai que je dois faire une thèse sur tragédie et philosophie, justement à la jointure des deux choses que je pratique.
Alors, Fabrice Hadjadj, pour une mystique de la chair, pourquoi, en quoi y a-t-il une mystique de la chair ? Pour dire les choses simplement aux auditeurs, de Radio Courtoisie.
C'est un titre, hein. Il a fallu tout un livre de 300 pages pour le dire, alors je ne peux pas le dire simplement en quelques mots. Je voudrais d'abord dire que le premier titre, c'est La profondeur des sexes, et que pour une fois, disons, je n'ai pas voulu, comme catholique, approcher la chose à partir du mariage, mais vraiment à partir des sexes, et même parfois, je commence par une lecture, disons, philosophique de la rencontre sexuelle, de l'acte sexuel, etc. Et on passe à travers des chapitres successifs sur le corps d'abord, sur le couple ensuite, par-delà le couple sur l'enfant, hein, puis sur la cité, hein, parce que c'est quand même sur l'union des sexes, nous dit Aristote, que se fonde la cité, c'est un fondement du politique, et enfin sur l'Église et le ciel. Voilà, donc c'est une construction comme ça, où on entre dans des profondeurs successives, et c'est pour ça qu'il n'y a pas une mystique de la chair que je pourrais définir en un seul mot. Ce que j'ai voulu d'abord montrer par rapport à la situation contemporaine, c'est qu'on nous fait croire que nous sommes dans une société hypersexualisée, et d'ailleurs l'indignation du moralisme, du puritanisme fait perdurer cette illusion. On nous fait croire qu'on est dans une société fascinée par le corps ou par la chair, alors que c'est tout l'inverse. Notre société est marquée par la haine du sexe et par une gnose, hein, qui a pour but une forme de désincarnation, enfin un refus en tout cas de l'incarnation. Haine des sexes, c'est très simple, hein, on voit bien que ce qu'on appelle le sexe, d'ailleurs de façon très étonnante, parce que c'est un mot tardif, hein, utiliser l'article défini est une chose stupéfiante. Quand on disait le sexe autrefois, quand on parlait du sexe,
c'est le bon sexe,
c'était pour parler des femmes en général. Dans la langue classique, c'est les femmes. Bon. Mais quand on dit le sexe aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Eh bien, quand on y réfléchit, c'est stupéfiant. Parce que c'est un sexe qui n'a pas pour but d'engendrer, donc c'est la première chose. C'est un sexe qui peut ne pas concerner la différence sexuelle, donc à tel point que nous reprenons en cœur un mot qui est une aberration, qui est le mot d'homosexualité. Mais le mot sexualité est un accouplement monstrueux déjà du point de vue étymologique, puisque il accouple un mot grec, un préfixe grec, avec un suffixe latin. Si d'une oreille qui se veut fluide dans son écoute, je voulais l'entendre uniquement dans une seule langue, comme la plupart des mots, je devrais dire que l'homosexualité, c'est la sexualité de l'homme. C'est pour ça que c'est mieux d'être homo que d'être hétéro, mot barbare, parce que quand on dit homo, on entend acoustiquement ecce homo. Non mais, faut bien voir, c'est jeu. Or, l'homosexualité, c'est une aberration, le terme, hein, je parle du terme, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'une sexualité. La sexualité suppose la différence des sexes et l'ordination réciproque des sexes. Donc là, on parle de sexe, là où il n'y a pas sexualité, où il y a... vous voyez, bon, peut-être quelque chose qui met en jeu les parties génitales, mais qui d'ailleurs, génitales sans être de l'ordre de la génitalité au sens de la génération. Donc vous voyez comment tout est déplacé, on entre dans quelque chose qui est de l'ordre de la fiction, bon, de l'imaginaire, du cerveau. Troisième chose, est-ce que ça concerne la chair même? Nous allons vers le cybersexe. De plus en plus, ça se virtualise. Et puis même la psychologie nous a parlé de pathologies dites sexuelles pour des choses qui ne mettaient pas forcément en jeu le sexe. Je collectionne des chaussures de femmes à talons aiguilles, etc. Donc, ça, c'est le sexe encore. Et puis enfin, dernière chose, et c'est là où peut-être je marque une différence avec d'autres penseurs, etc., c'est que le sexe, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du drame. Il n'y a pas de dramatique sexuelle. L'OMS, dans des papiers récents, a parlé des droits sexuels, comme une sorte de couronnement des droits de l'homme, les droits sexuels. Vous savez que dans les Pays-Bas, déjà, ces droits sexuels existent pour l'enfant de 12 ans, qui a le droit d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Et si ses parents s'y opposent, ils doivent aller devant le tribunal de défense des mineurs pour essayer de légitimer le fait qu'ils interdisent cela. Est-ce que ça ne gêne pas l'épanouissement de leur fils? Donc, le sexe, en plus, c'est une médication, une chose quelconque. À toutes les 10 Chatterley, il faut prescrire un homme des bois. Vous voyez, comme ça, elle est beaucoup moins dépressive. Et comme ça, tout va bien pour elle. Bon. Vous voyez, de quoi parle-t-on? De rien. On appelle sexe quelque chose qui n'existe pas. Donc, qui n'a aucun rapport avec la chair, avec le donné matériel de l'humanité, cette sublime matière, depuis que le Verbe s'est fait chair, d'autant plus sublime, on savait qu'elle a été créée par Dieu, mais en plus qu'elle a été assumée par Dieu, ça confère une dignité ineffable. Et j'affirme à l'inverse que, très curieusement, la foi chrétienne, et je préciserai comme une étape supplémentaire par rapport à ce qu'a dit Rémi Braque, il s'agit plus simplement du Dieu des chrétiens, mais du Dieu des catholiques. La foi catholique, qui est une foi dans la chair. Une foi dans la chair. Le mystère de Dieu se communique à travers une liaison charnelle qui nous est donnée dans le mystère de l'incarnation et à travers les sacrements d'Église. Et donc nous sommes dans une situation très étonnante, méconnue de tous les puritains, méconnue bien sûr encore plus des libertins ou des laxistes, mais de rappeler que la morale chrétienne, très éloignée de toute forme de moralisme, cette morale de la miséricorde, est une morale qui affirme le mystère de la chair et qui défend la chair dans une société de plus en plus désincarnée.
Nous écoutons avec passion Fabrice Adjadj qui publie La profondeur des sexes aux éditions du Seuil. Alors c'est un livre où vous aimez manier les paradoxes, mais il n'y a pas que des paradoxes. Hein. On ne va pas vous enfermer dans cette image qui serait très mutilante par rapport au brio et au brillant de votre livre et surtout à sa profondeur. C'est un livre qui fait vraiment réfléchir. Mais pour s'arrêter quand même un instant à vos paradoxes, c'est que vous faites une défense de l'adultère. Alors je sais que vous avez dit au début de votre propos que vous n'aviez pas voulu attaquer le thème par le mariage, mais là on arrive au mariage quand même et vous défendez l'adultère. Alors que les oreilles chastes parmi nos auditeurs ne s'effraient pas, Fabrice Adjadj ne prône pas l'adultère en tant que tel. Il explique que bien qu'un homme et une femme c'est plusieurs femmes et que donc on peut en restant, en vivant une vie avec la même femme, on commet l'adultère en permanence, c'est cela ?
Non, j'ai...
je simplifie.
Non, ça c'est à propos de la polygamie, ça c'est ce que je dis. Je dis que la fidélité à une seule femme, c'est une polygamie de fond, puisqu'on est avec une jeune femme, puis une femme plus âgée, puis après jusqu'à une vieille dame, et jusqu'à même peut-être une défunte. Alors que quand on va d'une femme à l'autre, si c'était mon cas, je serais toujours avec les mêmes étudiantes, on pourrait dire. Donc il y a peut-être moins de diversité, en tout cas d'amplitude existentielle par rapport aux âges de la vie. Quand je fais la défense de l'adultère, c'est pas moi qui l'a fait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je dois faire une conférence bientôt sur ce thème-là. Convient-il de lire l'évangile de la femme adultère à une messe de mariage ? Or, vous voyez bien que c'est une chose qui ne se fait jamais. Nous sommes piégés dans une morale naturelle, dans une morale naturelle étroite. On ne peut pas trop le reprocher parce que la morale naturelle est tellement attaquée que voilà, l'Église, les gens d'Église en tout cas se sentent obligés de la défendre parce que personne n'est plus là pour le faire, les rangs sont très clairsemés, mais on oublie que d'abord nous annonçons le mystère de la miséricorde. Et on oublie, on ne cesse de chanter la famille, on oublie aussi le mystère du glaive. Quand le Christ parle de la famille, il parle des parents qui vont livrer leurs enfants, des enfants qui vont livrer leurs parents. Quand le Christ parle de la maternité, souvenez-vous, aux femmes de Jérusalem, hein, malheur à celles qui seront enceintes à ce moment-là. On a fait notre petit supermarché à l'intérieur de l'Évangile et nous avons inventé ce petit familialisme chrétien, catholique, que bien sûr par ce livre je veux faire exploser pour manifester la réalité, la vérité de la morale catholique. Hein, pas du tout avec un immoralisme, pas par haine de la famille, au contraire pour approfondir le mystère chrétien de la famille. Alors oui, défense de l'adultère. Le Christ défend la femme adultère contre ceux qui veulent la lapider. Et je montre en fait que la plupart des démarches qui ruinent le mariage sont des démarches qui sont dans le refus de la possibilité de l'adultère. Vous avez la démarche qu'on pourrait appeler, par raccourci, on pourrait dire la démarche talibane. Vous voyez, vous mettez la femme sous un voile, vous cadenassez ses hanches, vous la mettez dans un donjon, vous creusez des douves avec des crocodiles dedans. Vous évitez quand même de prendre une garde, parce que la garde peut devenir menaçante. Un garde, on ne sait pas ce qu'il peut devenir, donc vous tombez dans des problèmes quand même assez difficiles, et vous laissez la liberté, au cas où elle commettrait l'adultère, de la brûler ou de la lapider. Voilà. Alors, et refus de la possibilité de l'adultère. Et de l'autre côté, la position, on pourrait dire, libertine, c'est la position aussi de refus de l'adultère. Ouais, on va d'une femme à l'autre. Il ne peut plus y avoir d'adultère dans l'orgie. La ceinture de luxure est d'autant plus efficace, plus efficace encore que la ceinture de chasteté. Et donc, on refuse cette possibilité-là. À tel point qu'aujourd'hui, si un homme trompe sa femme. Je ne dis pas que ça n'est pas un péché, c'est un péché très grave. Et c'est peut-être même d'ailleurs de l'ordre du sacrilège, dans la mesure où le mariage est un sacrement. Mais il doit y avoir la possibilité du retour. Or aujourd'hui, si un homme trompe sa femme, c'est fini. C'est fini. Et derrière tout cela, vous remarquerez qu'il y a une conception erronée de la volonté de l'homme. C'est-à-dire de dire, ah bah oui, tu t'es engagé, et maintenant tu me trompes, tu as brisé toute alliance, comme si nous avions une volonté angélique, c'est-à-dire qui aurait une adhésion ferme, comme si l'homme ne connaissait pas de faiblesse, comme si l'homme n'était pas à la merci de voilà, c'est une misérable créature, la créature humaine, enfin, faut vous reconnaître. Donc, vous voyez, penser l'adultère comme un péché, mais comme un péché qui doit s'inscrire à l'intérieur d'un mystère de miséricorde. Et celui qui nous a donné le plus grand enseignement là-dessus, c'est pour ça que j'ai pu en parler philosophiquement, mais parce que j'avais quelques liens avec lui, c'est Paul Claudel. Toute la dramatique de Paul Claudel, c'est une dramatique où la femme qui est aimée, ce n'est jamais la femme régulière. Et c'est toujours comme ça dans les pièces de Paul Claudel. Et quand il fait cela, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il raconte sa propre histoire parce que, en sortant de l'abbaye de Ligugé, où il avait cru être moine, finalement, il repart sur ce bateau-là, l'Ernest Simons, et puis il voit cette femme, Isée, qui est mariée, et puis il va finalement payer le mari pour essayer d'avoir sa femme. Il va... Bon, chose atroce, hein, qui est l'histoire de Claudel. Alors on peut le réduire à ça, mais non. Claudel, en faisant cela, est biblique. Et il renvoie à l'histoire de David et Bethsabée, et il renvoie à toutes les femmes qui sont dans la généalogie du Christ, qui sont toutes des irrégulières, sous un rapport ou sous un autre. Alors comment a-t-on occulté cela? Comment un moralisme étriqué a caviardé la véritable morale catholique? Et ben, ça, c'est une interrogation qu'il faudra avoir, et il ne faut pas s'étonner aussi qu'il y ait de tels malentendus avec le monde.
Rémi Soulier. Oui, puis le titre « Défense de l'adultère » est excellent, parce que c'est un titre évidemment polysémique, hein, « Défense de l'adultère »,« Défense, illustration de l'adultère », maintenant « Défense », non, l'adultère est interdit.
Voilà, non, mais ça, voilà, bien sûr, c'est
voilà,
prévu.
Voilà. Et alors, c'est quand même ce jeu autour, enfin ce jeu, ce n'est pas du tout un jeu, mais enfin, cette, ou alors un jeu au sens de l'interstice, enfin, effectivement, contre le légalisme qui est toujours qui peut être glacé, qui peut être stérile, il y a cette dialectique, avec beaucoup de guillemets, de la concupiscence et de la grâce qui est au cœur du drame chrétien. Il me semble que l'un des mots-clés de ce livre, peut-être le mot-clé à mon avis, mais je pousse peut-être un peu loin, mais je ne pense pas, c'est le mot « drame ». C'est le mot qui revient avec le plus, enfin, en tout cas, dont l'intensité de la fréquence me paraît le plus porteur de sens, le plus significatif. Alors, est-ce que l'on peut, comment as-tu pensé la profondeur des sexes en termes de dramaturgie et en termes de, je parle de dramaturge aussi évidemment, et en termes de dramaturgie théologique, et voire en termes de tragédie.
C'est une lecture très juste de l'ambition de l'ouvrage. Le mot-clé pour moi, enfin, c'est sûr que c'est un mot fondamental, mais le mot-clé pour moi, c'est d'abord miséricorde. D'abord parce que c'est un mot qui, en hébreu, renvoie au sexe de la femme. Ce sont les entrailles maternelles, rahamim, voilà. La miséricorde renvoie à cela. On l'a gardé dans le Benedictus en latin, per vicera misericordiae dei nostri, hein, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu. Mais dès qu'on parle de miséricorde, on parle de drame, parce que la miséricorde présuppose la misère. Et dès lors, on n'est plus dans une morale où je donne un commandement et vous devez l'appliquer. Et puis si vous ne l'appliquez pas, vous êtes un nul, vous êtes un mauvais, vous êtes un méchant, et si vous l'appliquez, vous êtes un héros. On est dans une morale où on échoue. Le Christ n'est pas venu pour les bien portants. Donc on rate, on est dans la misère. On est des pécheurs, et quand on ne tombe pas dans le péché de la chair, on tombe dans le péché de l'esprit, ce qui n'est guère mieux, et même les théologiens disent que c'est pire. Forcément, la morale chrétienne est une morale dramatique. On tombe, et Dieu vient nous relever, et par nos propres forces, nous ne pouvons pas nous sauver. Je suis bien sûr un fils de saint Thomas d'Aquin, donc j'assume pleinement Aristote, mais il faut reconnaître que si on en reste à la morale d'Aristote, on n'a rien vu de la morale chrétienne. Et on oublie que, comme le dit Pascal, cette morale qui se moque de la morale, elle est d'abord concupiscence et grâce. Il y a le péché originel qui, dans la dramatique sexuelle, jette l'homme vers la femme. Ça c'est aussi, il faut bien le voir, hein, c'est dit d'ailleurs au moment des malédictions, qui sont d'ailleurs toujours des bénédictions. Et donc l'homme va échouer, même à l'intérieur d'un mariage, l'échec n'est pas que de l'ordre de l'adultère, il peut être de l'ordre du pantouflage stérile, du cocon bien ficelé. Grand danger, hein, puisqu'on, parmi les chrétiens, on peut faire de la famille une finalité. Et quand on regarde même aujourd'hui la manière qu'on a de concevoir l'acte sexuel, on refuse de voir cette dimension dramatique. On essaye de le soumettre à la performance. Voulant le soumettre à la performance, on le soumet au dopage, comme n'importe quel acte sportif. Et on perd de vue que justement c'est un acte où il y a abandon, où il y a échec, où le visage, comme dit Baudelaire, se décompose, où l'homme est livré dans sa misère aussi. Mais ceci est mon corps livré.
Il ne reste plus que 2 minutes d'émission, j'en suis navré parce qu'il nous faudrait une demi-heure de plus pour parler de tout cela. Est-ce que, Rémy Brague, est-ce que vous voulez dire en 30 secondes un commentaire sur tout ce que vous venez d'entendre?
D'abord, j'ai bu du petit lait.
Vous êtes fier de votre élève.
Oh, s'il était mon élève, j'en serais fier. Enfin, je serais fier qu'il le soit. Mais j'ai apprécié avec plaisir alors le côté paradoxal que vous avez souligné, qui pour moi est une qualité, enfin, c'est un éloge que je suis en train d'en faire. Il retourne avec talent une quantité de choses qui traînent un peu partout dans l'esprit, si l'on peut l'appeler ainsi, de notre époque, et malheureusement aussi dans l'esprit de beaucoup de cathos. Par exemple, le dégoût de la chair, qui est ce dont certains catholiques se flattent, et ce que l'on reproche en revanche à ceux-ci, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qu'une religion qui parle de la résurrection de la chair puisse être considérée comme méprisant celle-ci. Moi, je demande qu'on m'explique, lentement de préférence.
Merci Rémy Brague. L'émission malheureusement se termine. Nous avons vécu 1h30. Rémy, vous allez rester avec nous. Rémy Soulier, donc on vous entendra tout à l'heure. Je remercie Rémy Brague qui publie Deux dieux des chrétiens et d'un ou deux autres, paru aux éditions Flammarion, et Fabrice Adjage, La profondeur des sexes pour une mystique de la chair, paru aux éditions du Seuil. Auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons eu 1h30 de grande élévation spirituelle, intellectuelle. Ça n'est possible que sur à Radio Courtoisie, mais Radio Courtoisie, n'oubliez pas que vit aussi de vos auditeurs, donc nous comptons sur vous. À tout de suite.